France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Libé, un roman vrai. Chapitre 3, rentrer dans le rang. Nous avons tous spontanément tendance à réfléchir comme les autres personnes de notre génération. Les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ne pensent pas comme ceux qui avaient 20 ans en 1970, par exemple. Ils réfléchissent comme leurs congénères nés en même temps qu'eux. La raison à cela est probablement à rechercher du côté des médias, car c'est par eux que se transmettent les nouvelles idées aux nouvelles générations, sans même d'ailleurs qu'elles s'en rendent vraiment compte. Et c'est ainsi que certains médias deviennent générationnels et exercent une grande influence, ça a été le cas avec Libération. Dans le Libé des années 80, il y avait tout un état d'esprit qui semblait familier à la génération X, celle des personnes nées entre 1965 et 1980. Beaucoup d'entre eux se sont sentis naturellement chez eux, dans les pages du quotidien, sans pouvoir dire exactement pourquoi. Ce Libé de la deuxième version, celui avec le logo en losange, a été le journal de ceux qui couchaient avant le mariage, ne croyaient pas en Dieu et regardaient MTV, si vous me permettez d'être un peu caricatural. Et même si tous les membres de la génération X n'étaient pas abonnés à Libération, très loin s'en faut, l'influence culturelle de ce journal dans la décennie 80 a été particulièrement forte. Même les lecteurs du Figaro ont pu être influencés d'une manière ou d'une autre par l'écume de l'esprit Libé, car ce journal avait saisi quelque chose de l'époque plus que n'importe quel autre quotidien. Pour cette raison, cette décennie a constitué un âge d'or pour Libération, tant sur le plan économique que sur celui de son influence. Au cours des deux premiers épisodes de cette série, nous avons raconté les sources intellectuelles, politiques et idéologiques qui ont conduit à la création du premier Libé en 1973, le journal gauchiste des Mao et de l'existentialisme de Sartre. Dans l'épisode qui vient, nous allons raconter le Libé de la seconde génération, porteur d'autres idées, d'un autre univers, d'autres valeurs. L'idéologie de Libé 2 était moins axée sur le collectif et plus enclin à valoriser un hédonisme individualiste, libéral et libertaire, presque bobo diraient certains. Ceux qui ont regretté cette évolution ont alors dit qu'il était devenu l'émanation d'un narcissisme branché, esthète et revenu de tout, parisien par-dessus le marché. Mais à quoi cette critique renvoie-t-elle exactement? Et quelles étaient les composantes de ce nouveau Libération? Tentative de réponse avec l'aide des archives dans ce troisième épisode.
Je ne pense pas qu'il y ait la place d'un quotidien, mais je pense qu'il peut se la faire.
Libé, un roman vrai.
Créer un quotidien national de ce genre, à notre époque, relève, vous le savez, apparemment de l'utopie.
Une série de Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attachée de production, Lily Corner.
Alexis Bernier, vous êtes directeur de la publication du magazine musical Tsugi et directeur de la salle de concert de Trabendo à Paris. Vous avez été journaliste durant de nombreuses années à Libération. C'est un journal que vous connaissez bien et dont vous connaissez aussi l'histoire pour avoir notamment écrit un livre sur l'un de ses chroniqueurs musicaux les plus célèbres, sans doute le plus excentrique, Alain Pacadis. Un mot d'abord, est-ce que vous comprenez cette critique récurrente vis-à-vis de Libération d'être un journal parisien, un journal bobo, voire un journal de la gauche caviar?
Oui, je la comprends et je la connais. Et en même temps, c'est assez drôle parce que j'ai participé à des ce qu'on appelle des études de lectorat à la fin des années 90. Et on est derrière une glace sans teint. Il y a des gens qui décryptent le journal, qui en parlent, on leur pose des questions. Et on est dans une ville assez loin de Paris. Et les gens explique généralement que ce qui est formidable, c'est qu'avec le journal, on est en prise directe avec ce qui se passe dans l'actualité politique et culturelle à Paris. Et dans la même phrase, il dit « mais le problème, c'est que c'est trop parisien ». Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ?
La critique d'un Libération comme traître à la cause du peuple date de son tournant en 1981. Après son autodissolution de février 81, Libération cesse en effet de paraître. Le journal prévoit de retourner dans les kiosques au mois de septembre suivant, avec une toute nouvelle formule. Entre-temps, bien sûr, il y aura l'élection présidentielle de mai 81, cela n'a pas échappé à Serge July, ni à la nouvelle équipe du quotidien. Mais le consensus est que Valéry Giscard d'Estaing sera réélu tous les sondages le disent, et l'équipe de Libé estime pouvoir se passer de couvrir cette élection qui ne doit rien faire d'autre que d'acter la continuité. Pourtant, à la fin du mois de février, dans les locaux devenus très calmes d'un journal plongé dans un coma artificiel, Serge Julie reçoit un coup de téléphone. Au bout du fil, je dis bien du fil, ce n'est pas juste une expression comme on l'emploie aujourd'hui, il y a bien un fil sur le téléphone. Au bout de ce fil, donc, qui traverse Paris, se trouve l'un de ses amis, le publicitaire Jacques Séguéla. Et ce que cet ami lui annonce modifie radicalement ses perspectives pour les mois qui viennent. Car les courbes de sondage se sont croisées, et pour la première fois, François Mitterrand est donné vainqueur au second tour de la présidentielle. Julie accueille la nouvelle, tout en faisant ce geste des temps anciens qui consiste à entortiller un fil déjà torsadé autour de son doigt, le fil des téléphones à fil, un geste qui aurait aujourd'hui sa place dans un écomusée. S'il y a alternance, pense-t-il, alors que le bout de son doigt devient blanc, ce sera la première fois dans la Ve République et Libération ne peut pas se permettre de rater cet événement. Dans le même temps, Serge Julie est également assailli par cette pensée aussi stimulante qu'angoissante. Il ne reste plus que 12 semaines pour inventer un tout nouveau journal. Alors, 3 mois durant, l'équipe qui vient d'être réembauchée après la purge de Libé 1 se met au travail sans discontinuer, comme dans les temps héroïques du premier Libération, mais avec en tête un journal très différent.
Le président Mitterrand faisait sa première déclaration, un appel à l'unité et à la réconciliation des Français.
Et cet effort paie puisque le 13 mai 1981, 3 jours après l'élection de François Mitterrand, le journal est de nouveau dans les kiosques. Preuve de l'intérêt réel, mais aussi limité que provoque cette reparution, France Inter consacre à cette nouvelle une brève d'une durée de 8 secondes.
7h09. Le journal Libération renaît de ses cendres. Après 12 semaines d'absence et quelques licenciements dans son équipe, il reparaît dans les kiosques avec 36 pages et pour 3,50 francs.
Quelle était la place de la culture dans ce nouveau Libération d'après 81? Est-ce que c'était l'un des piliers de la ligne éditoriale? Est-ce que c'était pensé comme tel?
Alors, la culture a toujours été très présente à Libé. Dès en Libé 1, il y avait de la culture. Pacadis était présent dans Libé 1, Jean-Noël Augouze, Bayon, Serge Loupien. Enfin, il y a toujours eu de la culture à Libération. Et sa place est renforcée dans le Libé 2. Ce qui est amusant avec la culture à Libération, c'est que ça a toujours été une sorte d'état dans l'état. C'est-à-dire, une anecdote comme ça, le premier journaliste à avoir été invité à Apostrophe, dans une grande émission, à l'époque c'était vraiment une émission essentielle de la télévision française, c'est Alain Pacadis. C'est pas Serge Julie, c'est pas Marc Cravette, c'est pas... voilà. Et je crois qu'une partie du journal était désespérée de voir que c'était un membre du service culture, et encore en plus le membre le plus déjanté du service culture qui les représentait.
Et qu'est-ce que vous pensez que la direction du journal, Serge Julie, les gens qui ont pensé cette nouvelle formule, mettaient précisément dans la culture? Pourquoi c'était si important?
C'est-à-dire que la culture, c'était, notamment pour moi, qui était un jeune lecteur du journal à l'époque, où j'ai vraiment l'impression d'avoir appris à lire dans Libération. Chez moi, on lisait Le Matin de Paris, Le Tribune et Libération. Et c'était vraiment la contre-culture. Ça synthétisait tout ce qui était vivant à l'époque, le rock, le cinéma, ce qu'on appelle aujourd'hui d'un terme que je trouve un peu effrayant, qui est la pop culture. C'était des pages culture qui ne s'intéressaient pas à ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le mainstream, mais qui était très ouverte aux scènes alternatives.
Et puis aussi les collages, un journal où on peut parler de façon décomplexée des défilés de Gautier ou de Lacroix, mais aussi de littérature pointue, tout cela dans un journal fondé par Jean-Paul Sartre.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y avait de la BD dans Libé, on pourra parler des punks de Bazooka qui ont eu une importance très forte au sein du journal, même si ça a été météorique. Mais Libé s'est toujours ouvert à ces champs de la culture qui n'étaient pas forcément les plus respectés ou attendus. Enfin, et effectivement, le fait d'avoir très tôt s'être intéressé au défilé de mode, ce qui n'allait pas de soi dans un monde où on attendait encore plus ou moins le grand soir, s'intéresser à ces frivolités pouvait effectivement être mal perçu au sein même du journal. Mais c'est une des grandes réussites de Libé d'avoir compris qu'il n'y avait pas de sous-culture, et que la mode, la BD, le rock disent aussi énormément de choses d'une époque.
« À Libération, la culture s'entend aussi comme style, voire comme mode de vie. Il se dit même qu'on peut reconnaître les acheteurs de Libé rien qu'en regardant leurs vêtements. C'est en tout cas ce que raconte cette archive en forme de micro-trottoir enregistrée par Laure Adler en 1980.
Dès qu'on voit les gens arriver, on voit tout de suite à peu près le journal qu'ils vont prendre.
C'est-à-dire
à leur façon de se vêtir, façon de se comporter.
Par exemple, vous pouvez donner...
C'est-à-dire que les gens qui lisent Libération sont forcément à une tenue vestimentaire très... très libéré.
Et Libération, est-ce que ça se vend bien ?
Ah, très bien aussi. Il a eu une mauvaise période, puis maintenant, il se vend très bien.
Et le numéro spécial du samedi ?
Très bien, très bien. Pareil, 5 francs, ça fait rien, ça. Pareil.
Les gens ne sont pas arrêtés par
le... Non, non, les jeunes ne sont pas arrêtés. Et quand les jeunes, vous savez, quand il y a quelque chose qui leur plaît, ils ne regardent pas. Vous savez, maintenant, je veux pas vous faire de leçons, le commerce, c'est les jeunes. Il faut bien dire ce qui est, entre nous. Libération, c'est un journal marrant, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est un journal marrant, ils ont des rubriques marrantes. Et c'est pour ça, je crois, que les jeunes aiment bien ce qui est amusant.
Pour Libération, il n'y a qu'une seule chose que je trouve désagréable, c'est le samedi qu'on oblige les clients à prendre leur fameux sandwich. Alors, moi, c'est de la vente forcée, je ne suis pas d'accord, je suis gênée pour le client.
Et le client, il se sent gêné aussi ?
Ça vend moins de toute façon le samedi, Libération, il n'y a pas de problème.
La kiosquière parle donc ici du supplément sandwich qui existait avant le lancement de la nouvelle formule de 1981, mais qui la préfigure par certains aspects et notamment dans son attention justement aux choses du quotidien et au style de vie urbain. Le producteur Gilles Lapouge avait invité le responsable de ce supplément dans son émission du 26 novembre 1979.
Alors Jean-Luc Hennig, un mot à votre tour sur ce sandwich. D'abord, pourquoi sandwich ? C'est surréaliste ou bien il y a un sens ?
Il y a de ça, mais c'est aussi parce que c'est tout simplement encarté dans le journal Libération. C'est vendu 5 francs dans Libération, un petit peu comme le jambon dans le pain, si vous voulez. Mmh. Le jambon étant quelque chose d'un petit peu un peu plus attirant pour le samedi, qui est un jour faible pour les quotidiens, pour les quotidiens. Donc, c'était l'idée de faire effectivement un supplément, mais un supplément qui partirait de la vie quotidienne, puisque Libération est quand même, à travers son courrier, à travers ses enquêtes sur la vie quotidienne, à travers ses petites annonces, un quotidien qui s'est toujours intéressé à la vie des gens. Et on a eu l'idée donc de faire ce supplément de 48 pages, qui mêlera donc beaucoup d'annonces à des reportages sur les annonces, sur la vie des annonces et aussi sur la vie du métro, la vie des clubs, la vie des cafés, enfin la vie de notre ville.
Alexis Bernier, qu'est-ce que vous retenez de ces archives ?
Plusieurs choses. Déjà, quand le premier kiosquier évoque les lecteurs de Libération qui le reconnaît à leur manière de s'habiller, ce qui est certain, c'est que c'était une époque où on se distinguait par ses lectures, alors qu'aujourd'hui, on se distingue par son téléphone portable. On est soit une marque, soit une autre, alors qu'à l'époque, moi, quand j'étais dans la
cour
du lycée...
Avoir Libé sous le bras, c'était au fond un accessoire.
Exactement. C'était un accessoire de mode, un accessoire d'identification. Et pour moi, au lycée, à 17 ans, avoir Libé et Actuel, ça me définissait.
On peut dire aussi, et on l'entendait dans l'archive, Alexis Bernier, que Libé, c'est le premier quotidien à s'intéresser à ce point-là, à la vie quotidienne, à la vie des gens.
Ce qui est intéressant, c'est que cette manière d'attraper l'air du temps et de s'intéresser aux gens, c'est vraiment dans toutes les rubriques du journal. Par exemple, je crois que parmi les inventions de Libé, il y a aussi le fait d'aller au tribunal pour suivre les affaires liées au flagrant délit. Donc le reportage, effectivement, dans des univers un peu inattendus, ça fait totalement partie de la volonté de Libé d'être effectivement un journal populaire.
Est-ce que c'est un journal qui a été queer avant les autres ?
Totalement, ça c'est indéniable. Il y avait ce qu'on appelait la bande APD télé. Alors, c'était eux-mêmes qui s'étaient baptisés comme ça. C'était animé par Michel Cressol, Gérard Lefort et d'autres personnalités flamboyantes du journal qui commentaient l'actualité de la télé de manière décalée. Et effectivement, c'était tous très queer et ils s'étaient autoproclamés la bande APD télé. Donc cette culture était effectivement présente au sein du journal, mais c'était un journal où il y avait beaucoup d'ironie sur sur soi-même. Et je me souviens par exemple Serge Julie, qui était quand même une personnalité essentielle du journal, par qui tout passait et qui était celui qui décidait énormément de choses. Et ben il était constamment appelé la patronne dans ses pages. Et quand c'était le jour du dimanche, à l'époque, il y avait 3 chaînes, hein, donc ça allait vite. Ils pouvaient faire des petits commentaires rigolos sur toutes les émissions. Et quand arrivait le jour du Seigneur, et donc la messe, c'était, entre parenthèses, l'émission préférée de la patronne. C'était quand même un laboratoire de la vanne, aussi, comme on dirait aujourd'hui, Libération.
Recherche jeune fille pour voyage aux États-Unis. Cool et sentimental, physique et beauté indifférent. Garçon 23 ans, cheveux châtains, les frais du voyage sont à ma charge. Traversée du pays en autostop.
Jeune personne, 32 ans, transsexuelle, brune, situation administrative sérieuse, très douce, désire rencontrer monsieur agent rapport, sincère, pour possibilité de vie commune, enfant accepté avec plaisir. Photo souhaitée, discrétion totale assurée.
Je n'ai plus de cheveux et envisage de porter une perruque. 23 ans. Peux-tu me faire bénéficier de ton expérience ?
Si tu t'appelles Jacques, entre autres, que tu es juif et grec, agrégé de maths et physique, et que ton père est psychanalyste, téléphone à Denis au 266 09 82. J'ai retrouvé les piles de ton transistor.
Il faut s'arrêter sur cette rubrique, en particulier de l'histoire du journal, les célèbres petites annonces de Libé, qui sont présentes dans les colonnes dès les premiers moments du journal. Gratuites, elles sont un service rendu aux lecteurs et aux lectrices qui peuvent se mettre en relation entre eux, et cela sur tous les sujets possibles. On y trouve des annonces de rencontres, mais aussi des ventes d'objets. Parmi celles restées célèbres, on trouve notamment celle-ci.
« Vend les œuvres complètes de Lénine. Pas faute de conviction, mais par manque de fric. »
Libération n'est pas le seul journal à ouvrir ses colonnes aux annonces, mais il est le seul à le faire gratuitement, ce qui marque un autre état d'esprit. Nous avons retrouvé dans la salle des archives une émission de France Culture de 1979 consacrée à l'essor de ces petites annonces, considérées alors comme un phénomène de société. Le producteur Gilles Lapouge avait invité une journaliste de Libé qui avait justement mené une enquête sur ce thème. Annette Lévy-Villard, c'est son nom, explique que, en matière de rencontres amoureuses, le journal dans lequel l'annonce est publiée influe sur la rencontre qui va se dérouler ensuite. Comme dirait le philosophe des médias Marshall McLuhan, le message, c'est le médium, et encore plus avec Libé.
Je crois que le support est important. C'est-à-dire que j'ai rencontré également des gens qui lisaient Libération, mais qui mettaient une petite annonce dans le Nouvel Observateur, parce que c'était plus rassurant pour eux. Et à l'inverse, des gens qui lisent le Nouvel Observateur, qui mettent une petite annonce dans Libération, parce que c'est l'aventure. Ils recherchent quelque chose d'un peu hors de leur milieu habituel, un peu marginal. À ce moment-là, ils passent une annonce dans Libération. Mais le support, déjà, donne un ton à la rencontre, à ce qu'on recherche.
Annette, au cours de votre enquête, vous avez eu connaissance de, justement, d'aventures qui se sont nouées à partir de telle ou telle annonce.
Oui. Curieusement, j'ai rencontré 2 couples qui s'étaient mariés par une annonce de Libération.
Ah, parce qu'on se marie après les annonces
et
de Libération.
Oui, ils s'étaient mariés. Ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient mariés.
C'est patin, ça.
Et par contre...
Complètement inattendu.
Complètement inattendu.
Tandis que dans le Chasseur français, c'est au contraire des rencontres d'une nuit, bien entendu.
Tandis que dans le Nouvel Observateur, au contraire, des rencontres brèves et de plus en plus accélérées. J'ai rencontré des phénomènes d'aversion absolument inattendus. Où effectivement, par Libération, on s'était marié, et par le Nouvel Observateur, on draguait.
Ces petites annonces sont les témoins de nos sensibilités en train d'évoluer, notamment en matière amoureuse. Les annonces « Chérie, je t'aime » envisagent d'autres manières d'être en couple que les lecteurs de Libé sont plus enclins à expérimenter que ceux d'autres quotidiens. Ainsi se crée entre eux et le journal une communauté de pensée.
Ça n'est pas l'impression que j'ai eue en rencontrant les gens qui répondent aux petites annonces, qui en fait ne sont pas en situation de solitude extrême. Ils sont ni anormaux, ni particulièrement isolés. Mais ils ont découvert les petites annonces comme effectivement une aventure et aussi un marché fabuleux. C'est-à-dire qu'on met une annonce, on a au moins 50 réponses assurées, au minimum.
Ah oui ?
Pas jusqu'à 200.
Au moins.
Ah si, absolument.
Parfois, c'est 250 annonces dans Libération pour une fille qui demande, c'est minimum la première semaine, 250 lettres.
Alors, Libération, c'est très rentable, donc.
Oui.
Pour une fille, parce que les filles annoncent rarement dans Libération. Mais par exemple, dans le Nouvel Observateur, un jeune homme de 25 ans qui avait mis une annonce avec son numéro de téléphone a reçu une centaine de coups de téléphone de filles.
Une centaine.
Oui. Il en a vu peut-être il en a vu une trentaine. Parce qu'il a fait une sélection au téléphone.
Ouais. Il y a une chose dont Annette ne parle pas, c'est les taulards qui utilisaient beaucoup les petites annonces de Libération pour communiquer et effectivement recevoir, nouer des relations, recevoir du courrier. Dans un contexte actuel où, fort heureusement, on a un peu changé notre regard depuis MeToo, hein, je pense que beaucoup de ces annonces auraient tendance à effrayer les lecteurs d'aujourd'hui. Moi, je me souviens d'une annonce très queer, pour le coup, que j'ai dû lire à 16 ans et qui me hante encore. Je la lirai pas à l'antenne, mais c'était d'une crudité incroyable. Et c'était vraiment une porte ouverte sur des sexualités que je n'imaginais pas et que je n'imagine encore toujours pas vraiment. Et c'est vrai que ça s'est mal terminé, parce que aussi bien les petites annonces que le courrier des lecteurs... ça s'est arrêté parce que il y a eu une lettre antisémite qui a été publiée, qui était passée en travers des mailles du filet, hein, pour des raisons que je ne connais pas exactement, mais cette liberté pouvait avoir son revers.
Titanic, le triomphe d'un naufrage.
Dette grecque et si l'Europe allait se faire voir.
Par la moquille, ma tête est malade.
Kate Middleton. Incroyable, cette femme va épouser un dauphin.
Mireille Mathieu, une certaine idée de la frange.
Effectivement, ces titres en jeu de mots, parfois incompréhensibles, hein, ça arrive, il y a des titres. Il n'y a rien de pire qu'un mauvais titre de Libé, un titre en jeu de mots. Mais là encore, c'est un autre état dans l'état, puisque ces titres étaient faits par l'édition, le service de l'édition, qui avait une importance, et qui a toujours une importance énorme à Libération, avec des gens, des éditeurs qui parfois étaient avant tout des titreurs, qui avaient le génie du titre. Mais ça fait partie de cette espèce d'ironie permanente. Faire un pas de côté, avoir un jeu de mots, c'était quand même très important pour cette façon de pas toujours tout prendre au sérieux, de pas être dans une austérité, pas être sinistre. C'est vraiment une des marques de fabrique du journal.
Il y a quelque chose de générationnel avec ces titres de Libé, ou est-ce que les jeunes journalistes de Libération ont intégré cette tradition ?
Ouais, les titres encore extraordinairement inventifs au journal aujourd'hui, mais si je peux m'en référer à mes propres enfants, je suis pas sûr que ça ne leur paraisse pas monstrueusement ringard.
Graphiquement, le journal qui paraît le 13 mai 1981 n'a plus rien à voir avec la maquette très dense du Libé des premières années. D'abord, il y a le logo, ce losange inventé par le graphiste Claude Maggiori, l'un des emblèmes les plus durables de la presse française puisqu'il est toujours à la une du Libé d'aujourd'hui. Et puis, il y a la place réservée à la photographie dans le journal. Sur la une, la plupart du temps, elle est tout simplement pleine page. Et dans les pages intérieures, les photos sont les plus inventives possibles, au prix parfois de cadrages déroutants. Dans tous les cas, c'est une marque de fabrique pour Libé, alors que dans le même temps, Le Monde se refuse à toute photo sur sa une jusqu'en 1994, au moment de la mort du photographe Robert Doisneau. Choquantes, marquantes ou poétiques, les photos de Libé sont un langage à part entière, mis au même niveau que les mots, et ça, c'est une des singularités du journal. Dans la salle des archives, on trouve le témoignage de la photographe Françoise Huguier, qui raconte l'histoire de sa première image publiée dans Libé. Nous sommes en 1995.
J'ai commencé par une campagne électorale pour Libération, où on m'a envoyé, où Christian Cozzol, qui est présent, m'avait envoyé photographier la campagne municipale du Finistère, de la région de Pont-l'Abbé. Et je suis revenue avec une photo de Bigouden avec l'humanité à la main. Et ça a été mon début à Libération.
C'était une mise en scène, une photographie ?
Non, c'était pas une mise en scène, c'était une photographie. Non, c'était une des premières inscrites au Parti communiste. Quand il y a eu toutes les grèves des conserveries après la guerre, et c'est pas du tout une mise en scène. Et ensuite, dès qu'on commençait à s'installer dans un confort photographique, à ce moment-là, on disait non, ce serait mieux si tu faisais tout d'un coup ou la mode ou pourquoi pas tirer au Nigeria pour photographier Voyer Soyinka. Donc ça, c'est un apprentissage aussi extraordinaire.
Alexis Bernier.
Avant de parler de photos, je voudrais juste dire un petit mot sur le logo. Ce qui est formidable avec ce logo, c'est que c'est le logo d'un groupe de rock, en fait. C'est un logo qu'on a envie de porter sur un t-shirt. Alors, je sais que Gene Seberg portait celui de l'Herald Tribune dans un bout de souffle, mais celui de Libération avait et a toujours l'impact, effectivement, comme je disais, d'un groupe de rock, quoi. Et ça, je trouve assez intéressant que le journal était rock de la première à la dernière page, même sans le vouloir. Et il l'était aussi dans ses photos, parce que ce qui est formidable à Libération, c'est que parmi les inventions du journal, il y a le traitement de la photo. C'est ce qu'on pourrait appeler maintenant avec des grands mots de la photographie d'auteur. Le cadrage, le style du photographe est très important. Et par exemple, je me souviens, il y a une photo célèbre de Georges Marchais à un congrès du PC où on voit à peine Georges Marchais, mais on le reconnaît tout de suite grâce à ses sourcils qui dépassent du pupitre énorme derrière lequel il s'exprimait et qui était lui photographié en gros plan. Jamais cette photo serait passée dans un autre journal. Mais faire ce choix de ces photos qui ont du style, du panache, tout en disant quand même l'essentiel, c'est-à-dire que c'est Georges Marchais qui s'exprime, ça a été essentiel pour Libération, pour la révolution graphique de ce journal. Et parmi les inventions, c'est-à-dire que non seulement les photos, on ne les trouvait pas ailleurs, ce style de photos, mais leur traitement aussi était très original. Libé a inventé les unes affiches, c'est-à-dire une une avec une seule photo, plein pot, et pas une avalanche de titres. Voilà. Et surtout, ça a été inventé, conceptualisé pour les nécros, qui font à chaque fois bondir les ventes du journal, encore aujourd'hui. Et je crois que la première de ces une affiches, c'est celle de la mort de Jean-Paul Sartre. Donc c'est une affiche, c'est aussi une des expressions de l'inventivité du traitement graphique de Libé.
La recherche formelle se retrouvait également dans la démarche journalistique des reporters de Libération. Chercher un angle différent, écrire autrement, appréhender un lieu de reportage d'une manière décalée, bref, ne pas faire comme les autres. Exemple de cette démarche, avec une archive de Marc Kravets, le premier journaliste de Libération à avoir reçu le prix Albert Londres. Nous sommes en 1991.
Quand j'arrivais quelque part, je prenais des autobus. L'autobus est un moyen de transport, ou les grands taxis collectifs, qui existent beaucoup dans le tiers-monde au Proche-Orient. Et comme je ne savais d'abord pas parler la langue, que je ne savais même pas de quoi était faite la ville, j'en avais pas toujours un plan avec moi, les plans sont des choses plus rares qu'on ne croit, il y a un mot qui est à peu près commun à tout le monde, c'est terminus. Et donc, je prenais les lignes jusqu'au bout. Et arrivé au bout, selon la nature de ce terminus, évidemment, si j'étais en plein terrain vague, je revenais. Sinon, je m'arrêtais, je marchais, et j'essayais de pas trop me perdre, et je reprenais un autobus dans l'autre sens, puis je recommençais sur une autre ligne. J'ai fait ça dans plusieurs villes, et c'était une façon, pas tellement de découvrir la ville, c'est une façon à la fois d'apprendre des espaces, de sentir un peu des ambiances, de voir des choses qu'ordinairement on ne voit pas. Vous savez, les journalistes sont quand même très largement abonnés à des centres-villes plus ou moins artificiels.
Être reporter pour Libé, c'est aussi pratiquer un journalisme très écrit, un journalisme qui, pour certains des reporters, comme pour Marc Kravets qu'on vient d'entendre, se rapproche de la littérature et donc de ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, au fond.
Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelait aussi le gonzo journalisme. Hein. C'est cette tradition venue d'Amérique avec des journalistes comme Hunter S. Thompson et beaucoup d'autres qui a forcément marqué le journal comme il a marqué d'autres publications comme Métal Hurlant, par exemple, ou même Rock et Folk, à partir du moment où Philippe Manœuvre y est entré.
Les années 80 ont été pour Libération celle de ses plus grands succès. En 1981, au moment de la nouvelle version, le journal s'écoule à environ 40 000 exemplaires. 2 ans plus tard, ce sont déjà 60 000 exemplaires qui sont vendus tous les jours, avec des pics à 80 000 en fonction de l'actualité. En 1984, les ventes montent à 110 000 et continuent d'augmenter. Elles culminent en 1988, année d'élection présidentielle, avec 195 000 exemplaires quotidiens. En une décennie, le tournant opéré par Serge Julie est donc validé par les lecteurs.
Mais à l'intérieur des murs, quelle est l'atmosphère qui accompagne cette ascension? Comment se passe le quotidien du quotidien, dans une ambiance parfois folklorique? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans l'épisode qui suit. Turning out that book.